Europe 1.
Punchline, Laurence Ferrari.
Et on se retrouve dans Punchline avec nos débatteurs. Louis Dragnel est avec nous. Bonsoir, chef
Laurence.
Du service politique d'Europe 1. Carl Olive est là. Bonsoir.
Bonsoir, Laurence Ferrari.
Maire d'hiver droite de Poissy. C'est un élu de terrain qui est avec nous et qui va nous parler du quotidien. Amine El-Khatmi est là. Bonsoir.
Bonsoir.
Président du Printemps républicain, auteur du livre Printemps républicain. Et Maxime Liedo est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste et écrivain, essayiste plus exactement. Ouais, le titre de votre dernier livre ?
Génération fracassée.
On en avait régulièrement parlé. On va parler de plusieurs choses. Peut-être d'abord du pass sanitaire, parce qu'on a eu une petite lumière là, qui s'est allumée avec les mots du président Macron, qui a évoqué un retour à la vie normale et qui dit qu'ils ne sont pas fous du pass sanitaire, mais il a bien fallu faire ça pour pousser les gens à se faire vacciner. On l'écoute et puis on en débat dans un instant.
Le pass sanitaire, ce n'est pas un objectif en soi. Je vais vous dire, le premier qui voudrait se passer du pass sanitaire est devant vous. Si on peut demain arrêter le pass sanitaire, je suis le plus heureux des hommes. Mais le pass sanitaire a été une stratégie, je pense, payante, parce qu'elle a produit des résultats, pour conduire à se faire vacciner. On va le conserver, si je puis dire, dans la poche, pour éviter partout la fermeture, qui est la pire des choses. Mais dès que les conditions sanitaires le permettront, et à mon avis, quand je vois les chiffres, ça ne va pas venir si tard, permettre, sur les territoires où le virus circule moins vite, de lever certaines contraintes et de revivre normalement.
Voilà pour Emmanuel Macron. Il est gonflé pour vous, Maxime Liedo, de dire ça ?
Il n'est pas gonflé, mais disons que c'est un retour de situation un peu inattendu. Je rappelle qu'il y a encore quelques semaines, Olivier Véran évoquait le fait qu'on puisse prolonger le pass sanitaire après, il me semble, le 15 octobre.
15
on oubliait le 15 novembre. On oubliait le fait que le Conseil constitutionnel avait quand même, certes validé, mais avait quand même bien précisé qu'il fallait repasser devant le Conseil constitutionnel pour s'assurer qu'il y ait bien encore un motif au niveau de la santé pour vraiment confirmer son maintien. Et puis oui, on rappelle quand même qu'Emmanuel Macron a fait son discours le 14 ou le 12 juillet plus précisément, en disant que le pass sanitaire était inévitable et qu'on allait, on allait tous en avoir besoin à l'avenir. Donc évidemment que c'est un retour de situation, surtout avec l'expression « la vie normale » qu'on nous sert à toutes les sauces depuis au moins le début de l'épidémie.
Carl Olive, ça vous surprend, encore une fois, d'évoquer aussi clairement le retour à la vie normale ?
Non, ça ne me surprend pas. Je disais sur le plateau la semaine dernière, Laurence Ferrari, que la porte d'entrée devait être finalement l'hôpital, les urgences et la situation sanitaire à l'instant T. Moi, en tout cas, il y a quelque chose dont je me satisfais. D'abord, ce que je constate sur le terrain, c'est que dans nos collectivités, globalement, on n'a pas eu de difficultés. Et encore moins de difficultés quand le message qui a été passé était de dire que les tests PCR allaient devenir payants à partir du mois d'octobre. Là, on a eu des vases communicants qui ont fait remonter la vaccination. Typiquement, hier, 500 vaccinations chez Morissette à Poissy, le centre de communication.
Morissette, c'était la première qui s'est fait vacciner. Hein. On a l'impression que c'est votre grand-mère, mais non, c'est Morissette.
Ça aurait pu.
Elle est charmante.
500 personnes vaccinées, la moitié de jeunes entre 12 et 16 ans. Ça, c'est aussi un signe qui parle. Enfin, moi, je suis content qu'on aille sur de la territorialisation, parce que c'est ce que nous avions demandé au président de la République, lorsque le virus circule un peu moins sur certaines régions, autant faire en sorte, pense à la façade atlantique à l'époque, qu'on puisse enlever le masque et puis que les restrictions soient un peu plus apaisées.
Amine El-Khatmi, là-dessus, sur les mots du président Macron, l'optimisme, les jours heureux, ça y est, c'est reparti.
Oui, je trouve qu'il s'avance un peu, le président de la République, parce que effectivement, on voit que la situation est plutôt contenue et même va en s'améliorant. Mais j'entends aussi les alertes, notamment des médecins, qui disent attention, les températures sont encore estivales, les gens sont dehors, ils ouvrent les fenêtres, ils mangent sur leur terrasse, et donc on peut pas dire aujourd'hui ce que sera la situation le 28 novembre lorsqu'il fera sans doute 5 ou 10 degrés dans le pays. Et donc je trouve que il y a une espèce de à minima de précipitation.
Alors,
mais on préfère ça que l'inverse.
Absolument. Louis Dragnel, pour élargir un tout petit peu la focale, il parle beaucoup en ce moment, Emmanuel Macron, tous les jours à peu près, hein, sur des thèmes très très différents, plusieurs fois par jour. Donc voilà, là, il ouvre une porte quand même. Hein, et il nous dit, c'est pour bientôt le retour à la vie normale.
Oui, et en fait, tout ça a été organisé. C'est-à-dire qu'ils se sont répartis les rôles. Olivier Véran, le ministre de la Santé, il est dans son rôle, il va jouer le méchant, en fait. Donc c'est celui qui annonce les sanctions. Et puis, avec ce discours, les personnes les soignants qui n'étaient pas vaccinés étaient prévenus, ça y est, maintenant les sanctions vont tomber. Mais de l'autre côté, à l'Élysée et puis le reste du gouvernement, on essaye de temporiser parce que, attention, les personnels soignants quand même ont été très mobilisés pendant la crise et puis c'est des gens qui globalement gagnent assez mal leur vie, donc ça, on ne va pas leur infliger la double peine. Et donc, à l'Élysée, on essaye de trouver aussi des signes d'espoir, parce que il y en a en fait des signes d'espoir. Globalement, l'épidémie recule, on sait qu'on va aller, heureusement, et c'est une bonne nouvelle, vers plutôt un allègement des restrictions. dans une dizaine de jours, il y aura une réunion organisée par l'exécutif avec tous les acteurs de la stratégie sanitaire, avec un objectif, effectivement, qui est de lever un certain nombre de restrictions.
C'est un conseil de défense ?
Non, alors ce sera peut-être la forme, je la connais pas, mais en tout cas, voilà, cette réunion, elle est calée à l'agenda, et donc l'objectif, c'est vraiment de, aussi de vendre un peu d'espoir, d'expliquer ce que Emmanuel Macron vient de dire et qu'on vient d'entendre, à savoir Emmanuel Macron, il se passerait bien du pass sanitaire. Et enfin, il y a un dernier argument.
Il voudrait donner des bonnes nouvelles. J'ai le sentiment en français.
Il y a un argument politique aussi dans tout ça, parce que la politique n'est jamais loin quand même. C'est parce que depuis quelques jours, Marine Le Pen est en campagne avec un nouveau slogan et elle veut incarner, elle veut se poser en défenseur des libertés. Et pas question à l'Élysée de faire passer Emmanuel Macron pour un président liberticide.
Vous avez raison. Vous avez évoqué aussi les soignants, Carl Olive. Les chiffres du taux de vaccination chez les soignants sont vraiment encourageants. On a 0,1% seulement des soignants qui ne se sont pas fait vacciner, alors qu'au début, on a eu tendance à dire, oui, regardez, ils ne sont pas, ils veulent pas se faire vacciner. Là, sur 2 700 000, il y a à peine 3 000 cas de personnes qui ont dû être mises en retrait. C'est quand même très encourageant.
C'est le cas sur l'hôpital intercommunal de Poissy-Saint-Germain avec ses 4 000 agents. C'est pour ça que chacun est responsable et les personnels soignants, et je dirais tous les personnels soignants, le personnel de ménage qui est à l'hôpital, les hôtesses d'accueil qui sont dans nos hôpitaux sont aussi concernés par le sujet. Il y a eu un moment de maladresse, à mon sens, ces derniers mois, c'est au moment où il y a eu une pause sur AstraZeneca, notamment pour les personnels soignants. Ça a duré 2 jours, mais ça a quand même bien pipé les dés, parce qu'à l'époque, je me souviens que le grand patron des maladies infectieuses de l'hôpital de Poissy-Saint-Germain disait qu'il n'y a aucune difficulté. Ça a un peu compliqué les choses. La vérité,
et
c'est
vous aviez les vaccins dans les frigos, vous ne pouviez pas les utiliser.
On avait les vaccins dans les frigos, on n'avait pas de difficulté sur le sujet. Ce qui est vrai, je rejoins ce que disait monsieur tout à l'heure, ce qu'on a besoin, vous parliez des médecins tout à l'heure, moi j'aimerais aussi qu'on ait un message clair de la part de nos sachants, comme de la part de nos politiques.
Ça va être compliqué sur les sachants.
On l'a toujours dit, et combien de fois sur ce plateau, et là on s'aperçoit que ça va beaucoup mieux. Maintenant, il faut qu'on soit prudent, parce qu'on est incapable de dire aujourd'hui, comme on était incapable de dire au mois de juillet ce qui allait se passer ce jour, ce qui se passera encore dans 2 mois. En tout cas, aérons. Voilà.
Non, mais c'est Maxime vrai.
Mais ce qui est quand même intéressant avec toute cette histoire de chiffres, c'est de voir quand même depuis 3 mois que les chiffres ne sont pas du tout là où on les attend. Je rappelle qu'en mai-juin, on disait mais il va falloir absolument anticiper des campagnes de vaccination pour les jeunes, parce que pour l'instant, ils fraudent le vaccin, mais quand ça sera ouvert, les jeunes n'iront pas se vacciner. Bon, on s'est aperçu qu'à partir du 12 juillet, les taux de vaccination chez les jeunes, c'est le taux qui a le plus progressé. Et en revanche, là où quand même on a ouvert la vaccination aux plus âgés le plus tôt possible, c'est là quand même où on patine. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a décidé de vacciner les plus jeunes, c'est-à-dire les 12-18 ans. L'OMS ne le recommandait pas. Le Royaume-Uni a décidé de ne pas aller vacciner cette tranche. Et oui, parce qu'eux, ils ont un taux de vaccination chez les personnes âgées, les plus de 75 ans notamment, qui frôle les 90, et je crois que même en Espagne, c'est 100%. Nous, malheureusement, le aller vert, alors le aller vert, on le dit partout, Louis Draguignel le confirmera certainement, mais malheureusement, on ne le fait pas beaucoup sur les tranches concernées. Et ça, mine de rien, je comprends que ce soit pénible, parce qu'on va aller embêter des populations, on va dire, plus actives, avec des contraintes pour l'intérêt général, mais ceux qui ont vraiment besoin de ce vaccin, eh ben, ils restent sans dose.
Louis Dragnet.
Juste une toute petite chose. Ce qui est intéressant aussi dans cette histoire, c'est que le gouvernement est en train de s'asseoir aussi sur l'idée initiale qui était un peu théorique d'atteindre l'immunité collective. Globalement, aujourd'hui, au gouvernement, on considère que l'essentiel des Français qui devaient être vaccinés, qui doivent être vaccinés, le sont, et que globalement, du coup, c'est le message est plutôt positif. Et enfin, une petite précision. Donc, dans un premier temps, on voit bien qu'il y a des sanctions qui sont tombées. Globalement, 3 000, effectivement, pour un volume quand même de 300 000 personnes. Et d'après ce qu'on m'a dit, il n'y a pas de volonté de sanctionner davantage. Il fallait un peu marquer le coup dans les premiers jours. Alors, tant pis, c'est malheureux, mais c'est tombé sur ceux qui se sont fait sanctionner. Mais l'objectif, à terme, quand même, c'est d'éviter ces sanctions pour les raisons qu'on a évoquées sur le fait que ce sont des personnes
simples de pénurie de soignants au sein même de l'hôpital. Parce que même s'il y en a très peu, vous rappelez les chiffres, il y en a quand même.
On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant. On va parler de ce coup de poignard dans le dos de la France, et ainsi que le ministre des Affaires étrangères a qualifié la rupture du contrat par l'Australie pour la commande de 12 sous-marins français. A tout de suite. Et dans Punchline, on évoque ce coup dans le dos pour la France. L'Australie a déchiré le contrat passé il y a 5 ans avec notre pays pour la construction de 12 sous-marins. Pour un montant de 56 milliards d'euros. On va tout de suite partir du côté de l'entreprise Naval Group à Cherbourg. Évidemment, c'est un coup dur. Écoutez ce syndicaliste CFCGC de Naval Group, José Batista.
Il y a un gros impact économique et social. On a à peu près sur 650 personnes en France et 350 en Australie, que ce soit des nationaux ou des Français. Donc là, il y a un gros sujet de reclassement. La chance qu'on a, c'est qu'on a un carnet de commandes qui est quand même suffisamment généreux, et notamment sur Cherbourg. Donc on n'a pas trop inquiet sur le reclassement des personnels. Toutefois, en termes de social, c'est jamais évident. On avait encore une quarantaine de familles qui devaient venir dans 15 jours, australiennes, sur Cherbourg, s'installer justement pour poursuivre le contrat. Et puis là, du jour au lendemain, tout s'arrête.
Carl Olive, maire de Poissy, comment on explique un tel coup de Trafalgar? Parce que là, il n'y a pas d'autre mot.
Pour être torpillé, c'est bien torpillé. Pour être cocu, c'est bien être cocu. Maintenant, quand on regarde un peu ce qui s'y passe, ça me rappelle 2013, notamment sur Poissy, merci de le rappeler, Laurence Ferrari, où l'entreprise Aulnay PSA avait fermé ses portes. Et on n'en menait pas large à Poissy sur la fermeture potentielle du site de production. Comment on s'en est sorti? C'est vraiment du marquage à la culotte. Et pas du marquage en
zone. Mais là, on ne peut rien faire. Là.
Ça en dit long quand même, pardon, sur la société d'aujourd'hui, sur la parole
donc
donnée.
Donc on ne pèse rien. La France ne pèse rien.
Et le deuxième message, et j'allais aller dans votre sens, le deuxième message, c'est peut-être que l'Europe doit absolument s'organiser. Parce que là, c'est un joli doigt d'honneur que nous envoie malgré tout
les États-Unis et Joe Biden.
Mais c'est ça, plus qu'un signe de nos sociétés au sens large du terme, c'est un signe de la fragilité de la France, sur le plan international. Alors on nous rebâche les oreilles sur les États-Unis. Oui, mais l'Europe, oui. L'Europe, ça fait 15 ans qu'on nous parle de l'Europe de la défense. À part dans des rapports parlementaires, on n'en a jamais vu la couleur. Voilà. Et par ailleurs, de la part d'un pays, des États-Unis, qu'on nous présente comme notre allié le plus proche, le plus précieux, le plus fidèle. Enfin, si, pardon, Louis, c'est quand même la réalité de ce qui nous est, dit. Et en plus, on apprend, c'est pas dit très clairement, mais on apprend ça un peu dans des indiscrétions, que l'Élysée découvre ça visiblement hier, et que le président est même pas prévenu par son homologue américain. Donc signe quand même d'un mépris qui est assez incroyable.
Et ce qui avait fait d'ailleurs dire à Jean-Yves Le Drian ce matin que c'est comme Trump, c'est vraiment Biden se conduit comme Trump, Louis de Ragnel.
Alors oui, ils se comportent, ils sont dans une logique de puissance et d'empire, et nous, on est toujours un peu bien élevé, le respect de la parole donnée. Mais je trouve qu'on pleurniche un peu. Enfin, si vous voulez, bien sûr que c'est terrible, c'est horrible, mais il faut se remettre aussi un tout petit peu en question. On est en train d'expliquer qu'on est poignardé par des alliés, mais il ne faut jamais oublier que l'Australie et la Grande-Bretagne sont bien plus proches d'un point de vue de la défense des intérêts stratégiques des Américains que de nous. Et donc là, l'objectif américain est simple, c'est simplement accroître sa présence autour de l'Australie parce que l'Asie est dans le coin. Et on sait très bien que maintenant, l'Amérique veut mener le bras de fer avec la Chine sur un plan militaire, géostratégique et donc économique. Et donc, si vous voulez, là, nous, on est tous en train de pleurer toutes les larmes qu'on a. Mais il faut aussi regarder ça en face. Les Américains ont quitté l'Afghanistan, en fait, quittent tous les pays dans lesquels ils n'ont pas d'intérêt stratégique pour investir dans tous ces pays-là. Et quand j'entends les déclarations des officiels français qui disent « Oui, c'est horrible, ce sont des alliés », voilà, faut jamais oublier le Commonwealth. Et faut jamais oublier que, par exemple, les Britanniques, on voit bien la réaction des Britanniques, ils sont extrêmement gênés, ils veulent surtout pas se fâcher avec les Français. En plus, on a des relations diplomatiques un peu compliquées sur les questions migratoires en ce moment. Et de l'autre côté, on sait très bien que mécaniquement, avec le Brexit, ils se rapprochent du grand frère américain qu'ils ont toujours eu. Et enfin, la dernière chose, c'est sur les questions effectivement, de puissance et d'empire. Quand vous êtes dans une logique d'empire comme les Américains, vous permettez de faire des choses qu'une démocratie classique, peut-être un peu vieillissante, ne se permet pas de faire. Alors, on se remet en question. Est-ce que ça doit passer par une Europe puissance? Il y a toujours un débat. Moi, je pense que d'abord et avant tout, la question est française, puisque le contrat était français. C'est de l'industrie française, militaire française. Et donc, faut aussi être un peu plus audacieux, verrouiller un peu plus aussi les contrats. C'est facile à dire, mais je sais que, pour avoir eu quelques personnes qui ont suivi ce dossier-là, il y a eu quelques signes avant-coureurs. Il y a eu des lanceurs d'alerte qui ont prévenu les autorités.
Il y a eu une campagne en Australie contre ce contrat.
Voilà, et qu'on n'a pas voulu voir, qu'on n'a pas voulu écouter. Donc je pense qu'il faut aussi se remettre en question un
Maxime
petit peu.
Maxime Yedo, sur ce
si
sujet.
Si on doit éventuellement se remettre en question sur la stratégie française, ce que demandait l'Australie n'était pas faisable, parce que les traités de non-prolifération du nucléaire, 1970, donc tout ça, c'était pas faisable. En revanche, que ça pose...
Sur le nucléaire, c'était déjà acté, puisqu'on vendait des sous-marins sans la puissance
c'est
nucléaire,
pour, ça, c'est ce que je dis, mais
pour que ce soit compatible avec la Nouvelle-Zélande.
C'est pour ça, c'est pour ça. Ensuite, oui, ça pose des questions au point de vue européen, mais c'est pas la première fois. On se rappelle quand même de la Suisse qui avait préféré acheter notamment certains avions des F-15 au Rafale. On se souvient même de l'Allemagne qui avait également préféré des F-18, c'est-à-dire des avions américains, plutôt que des avions européens. Et ce qui pose là quand même problème, c'est qu'il y a quelque chose en Europe qui s'appelle le SCAF, qui est un futur projet de combat aérien. Et ça, tout le monde a quand même un peu le regard rivé vers l'Allemagne, parce qu'on sait que c'est un peu la tête pensante de l'Europe. Elle n'a pas encore réellement réagi. Si déjà, au fur et à mesure du temps, Angela Merkel préfère notamment aller acheter un tout petit peu chez les Américains, d'autres matériels militaires chez les Américains, est-ce qu'elle va préférer mettre de l'argent chez nos alliés américains plutôt que dans des projets communs européens pour peut-être bâtir l'Europe indépendante militaire que souhaitait Emmanuel
Macron. Que nous
appelons
nos voeux. Carlo Livre, en tout cas, moi, c'est un doux rêve, cette Europe de la défense?
Je ne sais pas si c'est un doux rêve ou un réel cauchemar actuellement, mais le sujet, c'est que moi, je me gargarise pas, je me félicite absolument pas de ce qui vient de se passer. Et j'aimerais que certaines voix de droite, comme de gauche et d'extrême droite, arrêtent de toiser comme ils le font, parce qu'on a quand même des emplois à la clé. Je veux aussi dire que, effectivement, on se sent un peu isolé par rapport aux États-Unis. Je rappelle quand même que Airbus a signé un contrat dantesque, notamment avec l'Inde, sur l'acquisition d'A320. C'est plus de 30 milliards, donc tout ça mérite d'être inscrit et posé dans un décor qui soit un tout petit peu plus large que, évidemment, cette très mauvaise nouvelle qui nous tombe dessus.
Et qui ne tombe pas au bon moment, on est à 7 mois de la présidentielle, c'est pas le genre de nouvelle que le président Macron a très envie de faire savoir, évidemment. Il est en campagne, évidemment.
Oui, je pense qu'au-delà de tout ça, c'est que je pense que du côté de Cherbourg, même si le projet était... pas encore très avancé.
C'est 58 milliards.
C'est 58 milliards à l'arrivée. Ouais. Il y aura évidemment des intérêts de plusieurs centaines de millions qui vont être récupérés par les Français. Et c'est juste un retour des choses. Voilà. En tout cas, c'est une bonne leçon. C'est une bonne leçon du traitement qu'on a reçu de la part, effectivement, comme disait Louis Glagnel à juste titre, d'un allié naturel que peuvent représenter les États-Unis.
Louis Glagnel. Sur ce sujet, encore une fois, stratégique pour la France.
Non, mais je suis assez d'accord. Moi, je crois malheureusement pas à l'Europe de la défense. On a tous des intérêts qui sont divergents. Non, mais réellement, je vois Amine qui est en train de sourire. Mais l'exemple du Brexit, en réalité, par exemple, sur les programmes d'armement...
On nous l'annonce depuis des années. C'est comme l'Europe sociale. Chaque fois qu'il y a des élections européennes sur les tracts...
En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on a tous des intérêts divergents. Les pays d'Europe de l'Est veulent se protéger du méchant voisin russe. L'Allemagne est très liée avec les États-Unis, la Grande-Bretagne aussi avec les États-Unis. Et nous, si vous voulez, on est une puissance réelle, industrielle, militaire. On a une capacité nucléaire. Enfin, faut pas non plus aussi se tirer une balle dans le pied et trop se critiquer nous-mêmes. Parce qu'on on a des outils de puissance qui existent. Maintenant, ce qu'il faut, c'est les assumer et il faut les vendre. Et je rappelle simplement, là, pour le coup, il faut saluer l'action qui avait été conduite sous le précédent quinquennat. Jean-Yves Le Drian, quand il était ministre de la Défense, avant qu'il arrive, il y avait quasiment pas d'exportation de Rafale, il y avait pas d'exportation de programmes d'armement. Et il a donné une impulsion assez incroyable. Honnêtement, pendant 5 ans, il n'y a jamais eu autant d'exportations d'armement. Et c'était plutôt une bonne chose. Et ça s'est, ce qui est vrai, un peu stoppé depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron. Après, c'est de la stratégie politique, géopolitique. On verra ce que décidera le président
cas,
de la République.
En tout cas, ça ne va pas. Les Français, dans le sondage CSA pour CNews, 62% pensent que la France est en déclin. C'est sûr que ce genre de nouvelles ne va pas les inciter à penser autre chose, Maxime Niel.
C'est sûr. Après, il y a une différence, je trouve, entre le déclin et le déclassement. Le déclin, pour moi, c'est vraiment la chute, c'est la fin, on est au fond du trou, ce qui n'est pas encore le cas. En revanche, le déclassement est indéniable. Et ce que je remarque à ce stade, c'est que le simple constat de ce déclassement soit encore une nouveauté. Je veux dire, l'étonnement quant au déclassement de la France surprend encore, alors qu'à mon sens, c'est factuel. Il y a d'abord un déclassement éducatif, on le voit dans les enquêtes PISA, dans les enquêtes Teams. On est le pays au même niveau que la Bulgarie et le Chili en termes d'inégalité scolaire qui mine les élèves. Leur aide des résultats, on a des compétences en lecture et en calcul qui s'écroulent. Il y a également un déclassement industriel. On est le pays le plus désindustrialisé derrière la Grèce. Et puis quelque chose qui peut se ressentir dans dans chaque portefeuille, on va dire, c'est qu'en 1975, il me semble, on était parmi les 5 pays dans le monde où la richesse par habitant était la plus forte. Là, malheureusement, on est passé dans les 25e. Donc évidemment que ça pose question et tout le monde le voit.
On se retrouve dans un instant dans Punchline sur Europe 1. On évoquera le président Macron qui a aujourd'hui inauguré l'œuvre de Christo sous l'Arc de Triomphe, hein, puisque l'Arc de Triomphe a été empaqueté. Ça provoque une polémique assez incroyable. On en débat dans un instant, à tout de suite.
18h-20h sur Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.
Et on se retrouve avec nos invités. Emmanuel Macron était il y a quelques instants à l'Arc de Triomphe. Il inaugurait l'emballement de l'Arc de Triomphe, une œuvre posthume de Christo. Je suis sûre que vous avez dû voir la photo, chers amis auditeurs, de cet Arc de Triomphe complètement pacté avec des grandes bâches. C'est une œuvre artistique. On va écouter ce qu'a dit le président Macron et puis on en débat ensuite. Je suis sûre que ça va susciter quelques réactions.
Il y en a tous ces images de sauvagerie qui avaient ravagé ce lieu et qui nous avaient tous heurtés. Et non seulement vous avez réparé, mais vous avez porté ce projet pour qu'on réinvente l'Arc de Triomphe, qui est un lieu absolument unique et qui n'est pas qu'un lieu de culture, d'art, mais un lieu de mémoire, d'histoire et un lieu militaire.
Voilà donc pour le président Macron. Qui est absolument anti œuvre de Christo sur ce plateau? Louis Dragnel.
Je reconnais que je trouve ça objectivement très laid. Alors on me reprochera que l'art est subjectif et
que
ma sensibilité l'est également.
Ça déclenche la passion.
C'est vrai, mais vous voyez, le président disait ce qui est génial, c'est qu'on réinvente l'Arc de Triomphe. Est-ce que l'Arc de Triomphe a besoin d'être réinventé? Moi, je crois que non. Ça fait partie, si vous voulez, de notre patrimoine historique. Et en fait, c'est très lié à l'histoire, au-delà de l'édifice en lui-même. Il n'y a pas besoin de les transformer, de les bouger. On discutait tout à l'heure, c'était, vous savez, notre société, en fait, on a tellement de mal à créer des belles choses qu'on est toujours obligé de réinventer, de bouger, de modifier des belles choses qui avaient été faites par le passé.
Alors, c'est une œuvre temporaire, Louis,
mais heureusement,
qui n'a coûté pas un centime à la collectivité,
mais
qui est payée par les héritiers Christo.
Je reconnais que mon popo va peut-être choquer, mais quand je suis allé voir, parce que je voulais quand même regarder de mes propres yeux, j'avais l'impression que l'Arc de Triomphe était bâché, qu'il était en travaux. Et j'ai eu beaucoup de mal à voir la beauté derrière tout ça.
Vraiment.
Non, mais attendez. Honnêtement, allez. Laurence, tout le monde, il est de bon ton de dire « Ah, c'est génial, on ne sait pas trop ce que c'est. »
Mais n'ose pas
dire,
œuvre.
On n'ose pas dire que c'est que son avis. Alors, moi, je trouve objectivement que c'est moche.
Oui, voilà. Maxime Yedo.
Non, moi, j'ai l'impression d'être dans Festivus de Philippe Meret. C'est-à-dire
je n'ai pas vu ce film.
Non, c'est un livre. C'est un livre.
c'est qui
explique à quel point l'homme moderne s'ennuie tellement et était incapable de se préoccuper des vrais sujets qu'il est en permanence obligé de faire du spectacle partout. Donc, je suis assez d'accord avec lui sur le coup. C'est-à-dire que c'était quand même un peu inauguré, je crois, en 1806 par Napoléon de Bonaparte. Je vois pas pourquoi on se sent obligé de l'emballer. Je trouve que c'est quand même un peu à l'image de l'époque, c'est-à-dire assez vulgaire. Mais plus que ça, je trouve que ce qui me sidère un peu plus, c'est l'espèce d'enchantement pas du tout spontané qu'on met devant, comme si l'époque nous contraignait un peu à admirer chaque nouveauté ou chaque bâche qu'on pose sur quelque chose, sans être forcément réactionnaire comme se précipite, je pense, à le dire Amine El-Khatmi. Je pense que la preuve du goût demeure encore un tout petit peu quand on est capable d'émettre une critique envers ce genre de choses.
Cette œuvre, Amine El-Khatmi peut-être.
Écoutez, moi,
Carl
je trouve
Olive.
Qu'un pays
de la culture de la bâche.
Je trouve qu'un pays qui se dispute sur une création artistique, c'est un pays qui va bien.
Voilà. Je suis d'accord.
Moi, je préfère qu'on se dispute sur ça que sur autre chose. C'est ce que disait à votre micro Roselyne Bachelot ce matin. Je trouve ça bien qu'on se déchire sur un livre, sur une chanson, sur une œuvre d'art, etc.
Ça dépend de la chanson. Celle qui a été chantée à la fête de l'Huma, pas trop. Hein.
Non, mais ça, c'est pas une chanson. C'est la bêtise crasse de gens qui crie « Tout le monde déteste la police », c'est pas de l'art. Mais si vous voulez, j'ai pas ce côté il y a des monuments intouchables. C'est comme quand le président de la République a invité sur le perron de l'Élysée, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Les jeunes qui dansaient avec le petit DJ, là. Alors ça a duré une demi-heure, on en a entendu parler pendant 3 mois, on avait l'impression... Non, mais je ne dénie pas le droit aux gens d'être choqués, de trouver salé, d'être outrés, d'être... Je trouve juste ça bien qu'on en discute et que ça fasse l'objet de polémiques.
Carl Olive, votre avis?
Alors, je ne suis pas sûr que ça plaise beaucoup à Napoléon, qu'il avait voulu en 1806.
Ça me rappelle...
s'il nous écoute de l'au-delà. Ça me rappelle les 1% patrimoine que nous avons dans les collectivités sur les grands... quand on fait un grand projet immobilier, par exemple, il y a 1% patrimoine. Je rejoins Louis, c'est quand même très subjectif. Hein. le vagin, place Vendôme... Le phallus, place de la République,
Château de Versailles.
Château de Versailles. Bon, franchement, très peu pour moi. Ce que j'espère, c'est que ce week-end, lors des manifestations qui n'ont ni queue ni tête d'anti-vax ou de Black Bloc, il n'y ait pas de tag qui soit fait. Parce que là, ça serait...
On ne va pas les nettoyer.
Ça serait dommage.
Pitié, mais Carl Olive a raison. Il ne faut surtout pas... Il faut que ça disparaisse le plus vite possible. Surtout, ne donnons pas d'importance.
Ce qui est intéressant dans ce qu'a dit Emmanuel Macron, c'est qu'il a rappelé ce qui s'est passé pendant le moment des Gilets jaunes. C'était un symbole qui a été attaqué parce que c'était un des symboles, évidemment, de la République. Et ces Gilets jaunes, à cette époque-là, Amine El Khadmi, encore une fois, ils étaient venus dans le but de saccager...
Les extrémistes des Gilets jaunes, ce n'est pas les Gilets jaunes en tant que tels. Mais
avez raison.
Les groupes factieux en tant que tels. Parce que les Gilets jaunes...
Je préfère voir l'arc de triomphe. Et encore une fois, ça va durer... Non mais pardon, levez les yeux au ciel, comme si je disais des énormités. C'est provisoire. C'est provisoire. Et encore une fois, on ne vous demande pas... Moi, je viens d'Avignon.
Tout ce qui est laid peut être provisoire.
Louis, permettez. Je viens d'Avignon. Et chaque année, à Avignon, vous avez une pièce de théâtre... Vous en avez un qui fait pipi, l'autre qui se badigeonne de je sais pas quoi, etc. Et alors ça choque tout un tas de gens qui disent mais quelle horreur, etc. Mais on vous demande pas d'aimer, on vous demande pas d'aller le voir.
Personne te l'impose, Avignon.
Non mais d'accord, personne te l'impose.
Ceux qui passent devant.
Non mais d'accord, mais on a le droit.
Terminé, Amine.
Et on a le droit de ne pas aimer, on a le droit d'être choqué, mais moi je suis pour la liberté de création et garantir aux artistes le droit de faire ce qu'ils veulent tant que ça reste dans le respect de la loi et tant que ça reste dans le respect de la loi.
Louis Dragnet.
Non, moi ce qui me gêne juste, c'est on a le droit de pas aimer, et puis à chaque fois on vous propose quelque chose qui est objectivement laid, qui short et qui choque et qui heurte, et à chaque fois on vous répond non mais tu as le droit d'être contre, tu as le droit, mais nous ce qu'on veut c'est ne pas voir. Il y a beaucoup de gens qui sont juste choqués qu'en fait on touche comme ça à des lieux d'histoire, des lieux de patrimoine qui ont une symbolique très forte. Emmanuel Macron rappelait que c'était un lieu militaire qui précisément beaucoup de cérémonies militaires quasiment tous les jours ont lieu sous cet arc de triomphe. Bien voilà, c'est des gens qui se disent pas juste c'est temporaire, c'est pas grave. Non, il y a des gens que ça blesse et qui se disent tiens, on est encore un peu abîmé, on se sent un peu souillé par ce genre de choses.
Carl Olive, on est dans un pays qui va plutôt bien quand même pour se disputer sur ces thèmes-là, mais avec un pays aussi où il y a beaucoup de pauvreté. Le président Macron a aussi beaucoup annoncé de mesures aujourd'hui en faveur des plus défavorisés. C'est indispensable, encore une fois, ce sont des mesures électorales parce qu'on est à 7 mois de la présidentielle.
Non, mais moi, je souris quand on dit le président Macron est sur le terrain. De plus en plus.
Tous les jours. Hein.
Oui, enfin, moi, je suis ravi quand j'entends mon opposition me dire que depuis 6 ans, je suis en campagne. Tant mieux, c'est un signe de bonne santé. On a été récompensé pour cela aux élections. On va quand même pas s'en plaindre. Pendant combien de temps on a hurlé que finalement il était trop dans son bureau doré au niveau du château. Donc, faut évidemment savoir ce qu'on veut. Sur votre question, Laurence Ferrari, tant mieux s'il y a un peu plus de justesse. Et de justice sociale. Mais ça contrebalance. Moi, je suis très attaché, vous le savez, sur la réciprocité entre les droits et les devoirs. Ouais. C'est très bien que l'ensemble du pays des Français, et c'est grâce à notre beau pays que c'est comme ça que nous sommes une terre de droits, virgule, je rajoute toujours, aussi une terre de devoirs, et c'est bien de le rappeler de temps en temps.
Ok. Louis de Ragnel, une terre de droits et de devoirs.
Non, mais je suis assez d'accord avec Carl Olive. Et les devoirs, malheureusement, ne sont pas souvent rappelés. Culturellement, en France, tout le monde est toujours en train de demander des droits. J'ai droit à quoi. Et je trouve que Carl Olive a bien raison de rappeler l'impératif des devoirs.
Qu'on nous crée une ligne des devoirs de temps en temps, c'est bien aussi.
Maxime Lied, je vous vois assez sceptique sur ce qui est en train de dire.
Je crains que le temps soit
pas un exemple
pour ouvrir ce genre de débat. Mais pour les mesures annoncées par Emmanuel Macron, je crois qu'on va en avoir besoin, parce que certains économistes en parlent. Des prévisions de la Banque de France annoncent parfois des cataclysmes économiques qui ne font pas sourire. Les plus optimistes diront qu'on nous a donné déjà un cataclysme dès la reprise économique. On voit que la France repart, donc elle n'arrivera pas. Seulement, on passe de 6% de croissance à 3, voire 2 dans les deux prochaines années. Et qu'avec l'augmentation du gaz, de l'essence, Bercy, évidemment, et même le ministre de l'Intérieur craignent un nouvel épisode des Gilets jaunes. Mmh. Et ça va quand même peser, mais immensément, sur les plus petits ménages, notamment ceux qui travaillent avec la voiture, même en ville, ceux qui ont besoin de la voiture pour déposer les enfants à l'appel.
Il y a un chèque de 100 euros pour ces ménages.
Exactement, mais est-ce que ce chèque de 100 euros va suffire à enrayer cette hausse de tout ? Ça va se peser aussi dans l'alimentaire, etc. J'en suis moins sûr, et ça me chagrine énormément.
C'est pas une aide qui est pérenne, évidemment. Amine El Khatmi ?
Non, mais on sera, je pense, tous d'accord pour dire qu'il y a une urgence sociale. On voit même des propositions venant de, je pense notamment à Valérie Pécresse, qui propose une augmentation des salaires. Il n'était pas connu que la droite soit forcément, spontanément portée à proposer une augmentation des salaires. Donc on voit bien que chacun a bien compris qu'effectivement, il y avait une urgence sociale, que la crise qu'on est encore en train de vivre va avoir des répercussions sans doute sur de nombreuses années. Et donc, moi, j'approuve ces mesures.
Absolument, qui vont dans le bon sens. Surtout à l'heure où on se dit qu'on va sortir de cette crise du Covid, Karl Olive, et ça, on en avait quand même un peu besoin.
Bah, non seulement on a un besoin, mais je ne sais pas ici dans le 15e ce que vous ressentez, mais au quotidien, je peux vous dire qu'on sent bien que les Français sont souvent rôtis farcis, mais ils sont fatigués, ils sont impatients, parfois irrespectueux, et on voit des choses qu'on n'a jamais l'habitude de voir. Pour moi, pour la première fois en 10 ans, j'ai dû appeler la police municipale pour sortir une personne qui insultait un de mes agents au niveau de l'état civil parce que la rédaction de son passeport et sa commande n'étaient pas suffisamment rapides. Et ça, ce n'est pas des choses qu'on voyait auparavant. Je pense qu'il y a une décompensation psychique qu'on vérifie au quotidien dans nos collectivités. Et ça, ce n'est pas un bon signe.
Effectivement, et ça se traduira peut-être dans la prochaine campagne présidentielle qui démarre. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ces débats dans Punchline. Maxime Ledo, Génération fracassée aux éditions
Bayard.
Merci. Amine El Khatmi, le livre Printemps républicain.
Chez l'Observatoire.
L'Observatoire, Louis Granier, Avenir. Europe 1, Karl Olive, maire de Poissy.
Ce beau
merci.
Pays qui est le mien en décembre, édition Ballant.
Ah mais très bien, parfait. Merci pour vos livres, chers amis auditeurs. Merci à vous de votre fidélité. Dans un instant, c'est Stéphanie Loire pour Musique sur Europe 1. Et je vous retrouve demain à 18h pour Punchline. Bonne soirée à tous.